chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant la sainteté. En effet, il est de notre devoir d'aspirer à la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et le titre pour aujourd'hui sera « Être avec Christ pour être comme Christ ». Nous savons par la plupart d'entre nous que nous sommes censés être comme Jésus. Dans nos meilleurs jours, il arrive même que nous souhaitions être comme lui. Il est possible de ressembler à Jésus, mais pas uniquement en collaborant avec lui ou en tentant de l'imiter. Ce n'est qu'en connaissant notre position en Jésus que nous pouvons commencer à vivre vraiment comme Jésus. Le terme théologique pour être en Jésus, c'est être uni avec Christ. Nous ferons bientôt le lien avec la sainteté, mais nous devons d'abord mettre un peu de viande théologique sur ces os, car la plupart d'entre nous sont incroyablement maigres en ce qui concerne cet aspect de la théologie. L'union avec Christ est probablement la doctrine la plus importante dont vous entendrez parler. En tant que chrétiens, nous savons que nous avons été sauvés par Christ, que nous devrions lui ressembler et que nous pouvons vivre en relation avec lui. Cependant, nous ne considérons presque jamais à quel point toutes ces choses dépendent de notre union avec lui. L'intégralité de notre salut peut être résumé en le comparant à cette réalité. L'union avec Christ n'est pas une bénédiction parmi tant d'autres que nous recevons avec notre salut, mais c'est plutôt l'expression qui décrit le mieux l'ensemble des bénédictions qui découlent de notre salut, qu'elles fassent partie de l'éternité passée, de l'histoire, la rédemption, du présent, l'appel efficace, la justification et la sanctification, ou du futur, qui sera la glorification. Chaque bénédiction est donc reçue en Christ, selon Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Aucun aspect de notre salut ne peut être exclu de notre union avec lui. C'est sur ce fondement et sur cette base qu'il nous donne toutes choses. Alors qu'il est approprié pour les théologiens de parler de l'ordre du salut, qui consiste en l'appel de l'Esprit Saint, la nouvelle naissance, la foi et la repentance, la justification, l'adoption, la sanctification, la persévération et la glorification. Eh bien, nous ne devons jamais, jamais séparer ces bienfaits du bienfaiteur. Chaque bénédiction de l'ordre du salut, elle découle de notre union avec Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement une étape dans l'accomplissement de la rédemption. Lorsqu'elle est considérée de façon plus générale à la lumière de l'Écriture sainte, eh bien, elle est à la base de chaque étape du travail de la rédemption. L'union avec Christ est en fait la vérité centrale de toute la doctrine du salut, pas seulement dans son application, mais aussi dans son accomplissement, une fois pour toutes, dans l'œuvre finale de Jésus-Christ. La doctrine de l'union avec Jésus-Christ est si présente dans le Nouveau Testament que vous ne l'avez peut-être pas bien remarqué. Des expressions telles « être en Christ », « dans le Seigneur » ou « en lui » apparaissent plus de 200 fois dans les lettres de l'apôtre Paul et plus de 25 fois dans les écrits de l'apôtre Jean. Pour ne nommer que quelques exemples, eh bien nous sommes trouvés en Christ. Philippiens 3, verset 9. Nous sommes préservés en Jésus. Romains chapitre 8, verset 39. Nous sommes sauvés et sanctifiés en Christ. 2 Timothée chapitre 1, verset 9 et 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Nous marchons en Christ. Colossiens chapitre 2, verset 6. Nous travaillons dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Et nous obéissons dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Donc nous mourrons finalement dans le Seigneur, selon Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et bien entendu, nous vivons en Jésus-Christ, selon Galates chapitre 2, verset 20. Et nous sommes finalement vainqueurs en Jésus-Christ, Romains chapitre 8, verset 37. 32 fois encore, l'apôtre Paul parle des croyants comme étant participants ensemble avec Jésus-Christ à certains aspects de la rédemption, que ce soit en étant crucifié avec Christ, en étant enseveli avec lui, ou en étant ressuscité avec lui, et finalement assis avec lui au ciel. Sans cette union, eh bien, toutes les bénédictions de Jésus-Christ seraient séparées de nous. Ce n'est qu'au moment où le Saint-Esprit nous unit à Christ et que nous sommes greffés à son corps que nous pouvons prendre part non seulement aux bienfaits de Christ, mais à Jésus-Christ lui-même. L'ensemble de la vie chrétienne, de l'élection à la justification, à la sanctification, même jusqu'à la glorification finale, elle est exprimée et rendue possible grâce à notre union avec Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi la dernière requête de Jésus dans sa grande prière sacerdotale était que « je sois en eux ». Saint Jean chapitre 17, verset 26. De même, l'apôtre Paul a dit « Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire ». Colossiens chapitre 1, verset 27. Ces dernières années, la doctrine de l'union avec Jésus-Christ n'a pas joué un rôle marquant dans l'opinion populaire des chrétiens. Cette négligence est probablement liée à plusieurs facteurs. Premièrement, il peut être difficile de baser notre façon de penser sur cette doctrine. Après tout, savons-nous réellement ce que signifie être uni à Jésus-Christ, le fait qu'il soit en nous et que nous soyons en lui? Une telle abstraction nous mène à nulle part. Jésus-Christ, il n'est pas collé à nous. Il ne prend pas une forme microscopique pour pouvoir habiter telle une cellule dans notre ventricule gauche. L'union, elle n'est donc pas physique, mais théologique et spirituelle. L'union avec Jésus-Christ implique donc trois choses. La solidarité, Christ en tant que deuxième Adam, il est notre représentant. Ensuite, la transformation par le Saint-Esprit. Christ nous transforme de l'intérieur. Et la communion en tant que notre Dieu, Christ demeure avec nous. L'union avec Jésus-Christ ressemble au lien du mariage. Nous sommes unis à lui par une alliance d'amour. Elle ressemble donc à un corps, et nous sommes ses membres, et nous sommes attachés à notre tête vivante. Voilà donc, vous pourriez également dire que l'union avec Jésus-Christ ressemble à un immeuble, pourquoi pas. Et nous sommes donc en quelque sorte la maison, et Jésus-Christ vit en nous. Ces analogies bibliques sont des moyens terrestres de décrire la réalité céleste de notre union avec Jésus-Christ. L'autre raison pour laquelle la plupart des chrétiens se tiennent loin de cette doctrine est qu'il est facile d'en faire une interprétation erronée. Au fond, nous ne devons pas voir l'union comme étant une fusion. Selon la Sainte Bible, notre personne est attachée à la personne de Jésus, de sorte que Dieu est notre Dieu et que nous sommes ses enfants. Cependant, cette relation par alliance n'est pas une fusion de nature. Notre personne, elle ne se dissout pas dans la personne de Jésus pour former une union par laquelle il n'y aurait plus de distinction entre Dieu et son peuple. Par exemple, Meister Eckhart, le mystique médiéval, il a dit que celui qui est un avec Dieu partage le même esprit, la même existence. Il s'agit, à vrai dire, d'une affirmation inexacte, car dans certaines branches du mysticisme, sans mentionner les religions orientales, l'union avec Dieu est une unité absolue où deux êtres ne forment plus que un seul. Toutefois, ce n'est pas du tout ce que la Sainte Bible enseigne sur l'union avec Jésus-Christ. Tout comme les trois membres de la Trinité sont unis en demeurant trois personnes absolument distinctes, et tout comme les deux natures de Jésus-Christ sont unies en étant distinctes l'une de l'autre, Christ est en union avec nous, sans éclipser notre individualité propre. Donc, nous ne devenons pas des dieux. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 4, explique que les croyants deviennent participants de la nature divine. Calvin a déclaré que le but de l'évangile est de nous rendre tôt ou tard comme Dieu, ce qui est pour ainsi dire une sorte de déification. Toutefois, il précise très clairement que la déification, que cela ne veut pas dire que nous nous perdons en Dieu. Devenir comme Dieu, c'est développer les qualités et les vertus de Dieu. L'humanité et la divinité ne se mélangent donc pas. Notre humanité, elle est entièrement conservée, mais elle est aussi entrée dans un processus de restauration complète. Nous ne pouvons devenir Dieu, mais nous pouvons devenir comme lui. Ça veut dire semblable à lui. Il est donc important que nous ne voyons pas la spiritualité comme étant un exercice de détachement entre notre corps et notre âme, ayant comme visée de nous envoler vers le ciel et d'être absorbés dans une sorte d'absolue divinité. Nous devons toujours nous rappeler que l'union avec Christ, elle est possible à cause de la venue de Jésus-Christ, de la venue du Fils sur la terre, et non pas à cause de notre ascension au ciel. La base de notre union avec Jésus est donc son union avec nous par son incarnation. Il est ainsi devenu un avec nous, afin que nous puissions devenir un avec lui. La spiritualité chrétienne ne repose pas sur le mysticisme, elle repose uniquement sur le médiateur. Je sais que cette partie de l'étude est plus technique que les autres, mais cette exploration théologique est absolument nécessaire. L'union avec Christ est plus qu'un concept doctrinal fascinant pour les rats de bibliothèque et pour les passionnés de vocabulaire. Elle a une incidence sur notre façon de vivre. Elle a une incidence sur notre santé spirituelle. Elle a également une incidence sur notre sainteté. Notre croissance dans la sainteté dépend donc de notre union avec Christ de plusieurs manières. Premièrement, cette union nous rappelle que chercher la sainteté, c'est également rechercher Jésus. Nous ne voulons pas être vertueux seulement pour être de meilleures personnes. Notre premier amour, c'est Jésus. En définitive, la sainteté ne consiste pas à vivre selon un certain standard moral. La sainteté, c'est vivre en Jésus-Christ. Vivre de cette union vitale et authentique avec lui. Deuxièmement, l'union avec Christ aide. Elle aide à rétablir la relation entre la justification et la sanctification. La plupart du temps, la justification et la sanctification ont été séparées l'une de l'autre, tant dans la théologie que dans la vie chrétienne. Et cela a conduit certains chrétiens à élever la foi aux dépens des œuvres, ou les œuvres aux dépens de la foi. D'autres chrétiens encore se sont dévoués corps et âme à la poursuite de la justice, sans considérer la justice de Jésus-Christ. Toutefois, la justification et la sanctification sont donc toutes les deux des dons reçus en Jésus-Christ. Notez 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, et le chapitre 6, verset 11. Calvin a raison lorsqu'il parle de la justification et de la sanctification. Ces dons de grâce vont absolument ensemble, comme s'ils étaient attachés par un lien impossible à défaire. Si une personne tente de les séparer, elle tente, en un certain sens, de mettre Jésus-Christ en pièces. La sanctification découle donc de la justification, certes, mais l'une n'est pas produite par l'autre. Les deux proviennent donc de la même source. Jésus-Christ ne peut justifier une personne sans également la sanctifier. Grâce à notre union avec Christ, il nous fait don des deux, et l'une ne va jamais sans l'autre. Cette vérité est donc claire, nous ne sommes justifiés ni dans les œuvres ni par les œuvres, puisque la sanctification progressive et la justice imputée sont toutes les deux incluses dans notre participation en Christ qui, lui, nous justifie. L'importance de ce qui lie ces réalités à Christ et à notre sainteté personnelle est incontestable. Cependant, on trouve dans la Sainte Bible une autre connexion encore plus frappante. Nos avancées dans la poursuite de la sainteté sont intimement reliées à notre compréhension et à notre appropriation de notre union avec Christ. Comme rien n'est plus nécessaire à notre sanctification progressive que le fait de reconnaître que nous sommes morts au péché et ainsi nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Notez Romains chapitre 6, verset 11. En dehors de notre union avec Christ, chaque effort déployé pour imiter Jésus-Christ, peu importe à quel point cet effort est noble et bien intentionné, cela mène inévitablement au légalisme et à la défaite spirituelle. Cependant, une fois que nous avons compris la doctrine de l'union avec Christ, nous constatons que Dieu ne nous demande pas d'être ce que nous ne sommes pas du tout. Il nous demande seulement d'accomplir ce qu'il a placé devant nous. La poursuite de la sainteté n'est pas un effort utopique pour nous amener à faire exactement ce que Jésus a fait. C'est le combat nécessaire pour vivre la vie qui a déjà été accomplie en Jésus-Christ. Si je devais résumer en une seule phrase la morale du Nouveau Testament, voici ce que je dirais. Soyez vous-même. Ça peut sembler étrange, presque hérétique, étant donné l'importance que met notre société sur le fait d'être fidèle à soi-même. Mais malheureusement, comme la plupart des pires erreurs du monde, eh bien cette pensée véhicule une vérité profondément pervertie. Voyez-vous, les gens disent « Détends-toi, tu es né comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? Rien !» ou arrête de chercher à être qui tu n'es pas et sois simplement toi-même. Or, sans le savoir, ils énoncent une pensée extrêmement biblique, car Dieu veut en effet que vous soyez vous-même et que vous restiez fidèle à vous-même. Toutefois, le vous auquel il pense est le vous que vous êtes par la grâce et non pas celui de votre nature. Vous deviez peut-être répéter la dernière phrase une fois de plus pour vous assurer de bien comprendre tout cela. Alors je répète, toutefois le vous auquel il pense est le vous que vous êtes par la grâce et non pas celui de votre nature. Alors, vous avez compris, là, il faut bien noter cela dans notre mémoire. C'est ainsi que vous pourrez faire la différence entre la vie vécue dans le péché. C'était notre vie avant et la vie vécue maintenant dans la justice. Voyez-vous, Dieu ne dit pas du tout « Cher ami, détends-toi, car tu es né comme ça, ne t'en fais donc pas. » Mais Jésus dit « J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es maintenant né de nouveau. Ce qui était hier, tu n'es plus du tout comme tu étais hier. Tu n'es plus la même personne qu'avant. En tant que croyant, vous appartenez maintenant à Jésus-Christ. Ce n'est pas tout. Vous êtes maintenant attaché à lui. Par la foi, par le Saint-Esprit, vous êtes unis à lui. Christ vit donc en vous et vous en lui. Vous êtes maintenant un avec Jésus-Christ. Alors vivez comme lui. Ça, c'est le message si souvent répété dans tout le Nouveau Testament. Par exemple, chers amis, en Christ, nous sommes morts au péché et vivons pour la justice. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 4, notez aussi Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. En Jésus-Christ, nous sommes maintenant de nouvelles créations, afin que nous puissions vivre pour lui et non pas pour nous-mêmes. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Si quelqu'un est en Christ, il est donc une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 15 et 17. En Jésus-Christ, notre nature pécheresse est mise à mort et une nouvelle forme de vie, une nouvelle personne, en fait, est à l'œuvre en nous. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui lui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Chers amis, en Christ, nous ne sommes plus des enfants de désobéissance et des enfants de colère, mais nous sommes vivants avec Christ, nous sommes capables d'accomplir les œuvres qu'il a préparées pour nous. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage maintenant, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6 et le verset 10. En Jésus-Christ, nous pouvons marcher maintenant comme lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Colossiens chapitre 2, verset 6. En Jésus-Christ, nous sommes maintenant saints et précieux, et nous sommes appelés à vivre en toute connaissance de cause. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Donc, plusieurs fois, la Sainte Bible nous rappelle notre identité en Christ pour nous exhorter à lui obéir. Ne cherchez pas la sainteté parce que vous avez terriblement peur de Dieu, mais poursuivez la sainteté parce que vous avez totalement confiance maintenant que vous lui appartenez déjà. Gloire à Dieu. Le lien entre l'union avec Christ et la sanctification ne pourrait pas être plus clair que dans Romains chapitre 6. Dans ce passage, l'apôtre Paul tente de répondre à la question: devons-nous continuer à pécher afin que la grâce puisse abonder? Et juste avant, l'apôtre Paul prônait la justification par la foi seule, et par la grâce seule, en Jésus-Christ seul. Alors il anticipe maintenant, il anticipe cette objection. Voyez-vous, si la grâce est tellement grande, alors nous pouvons continuer à pécher, oui ou non? Romains 6, verset 1. Cher ami, tu parles, tu rêves, mais jamais. On peut avoir le meilleur des deux mondes, par exemple, commettre le péché dans cette vie, et avoir la gloire dans l'autre. Oh là là, évidemment, cette logique, vous l'avez compris, elle n'est pas tirée, elle n'est absolument pas tirée de l'Évangile. Jude verset 4 nous met en garde contre les impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Jésus-Christ. De toute évidence, la grâce, ce n'est pas une décharge pour nous autoriser à commettre n'importe quoi. Jamais, jamais. Chers amis, pour l'apôtre Paul, la motivation commence, mais ne se termine pas. Elle ne se termine pas à partir de notre identité en Christ. Notez Romains chapitre 6 et constatez ce qui est vraiment objectif, définitif et irréversible en vous en tant que chrétien. Vous avez, rappelez-vous, vous avez été baptisé en Jésus-Christ, verset 3. On parle de Romains chapitre 6. Vous avez été crucifié avec Christ, verset 6. Vous êtes mort avec Christ, verset 8. Vous avez été enseveli avec Christ, verset 4. Vous êtes ressuscité avec Christ, verset 4 et 5. Et lorsque 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 dit, lorsque 1 Corinthiens chapitre 10, verset 2 dit des Israélites qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, cela ne veut pas dire qu'ils ont littéralement été plongés en lui ou été aspergés avec lui. Cela signifie plutôt qu'ils lui ont été unis. Ils ont participé avec Moïse à l'Exode, eux en tant que peuple, et lui comme leur représentant et leur chef. C'est en ce même sens que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, que notre baptême physique ait eu lieu lorsque nous étions enfants, et que nous le soyons enfin appropriés plus tard, et cela par la foi, ou qu'il ait eu lieu lorsque nous étions déjà adultes, eh bien immédiatement accompagnés d'une profession de foi, eh bien nous sommes appelés à voir en ce sacrement un signe de notre union avec Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous ne ressentons pas toujours notre proximité avec Jésus. Cela ne change pas la réalité de notre union avec lui. Il nous est dit de nous regarder comme étant morts au péché et comme étant vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 11, parce que c'est la vérité. Nous devons donc reconnaître que nous sommes en Jésus, morts maintenant au péché et vivant maintenant pour la justice. J'ai entendu un jour l'histoire d'un homme qui luttait avec l'attirance physique envers les hommes. Il avait avoué à son pasteur qu'il allait retourner sur la scène d'un bar homosexuel le soir même. Alors son pasteur lui a simplement répondu: moi, je ne crois pas que tu le feras, car ce n'est pas ce qui tu es en réalité. Voyez-vous, ça c'est un bon conseil, et il est même très biblique. La relation entre nous et le péché change fondamentalement et irrévocablement lorsque nous sommes unis à Christ. L'ancien moi a été crucifié. Romains chapitre 6, verset 6. Et le péché ne domine plus sur nous. Verset 14. Cela ne veut pas dire que cette dimension de nous qu'on appelle vieille nature a été remplacée par une autre appelée la nouvelle nature. L'apôtre Paul ne parle pas de dimension, mais il parle de position. Notre vieille nature est ce que nous étions en Adam. Selon le chapitre 5 de Romains, versets 12 à 21, la mort, le péché, le châtiment, la transgression, voilà donc l'équipe qui se trouve en Adam. Or, vous et moi, nous sommes morts à cette équipe. Et oui, des Josiane et des Ruth sont morts il y a longtemps à leur vieille nature, il y a longtemps. Le contrat a été résilié. Nous représentons maintenant l'équipe en Jésus-Christ. Être uni avec Christ, c'est comme être intégré à une équipe de football alors que nous n'avons nous-mêmes aucun talent. Bien que nous n'ayons pas mérité notre place au sein de l'équipe, eh bien maintenant que nous portons le maillot de l'équipe, nous voulons jouer comme de vrais joueurs de football. Nous pourrions utiliser d'autres analogies, bien entendu. L'union avec Jésus-Christ, c'est comme être libéré d'une sinistre prison. Oui, oui. Lorsque vous entendiez des pas approcher, vous aviez le réflexe de vous recroqueviller sur votre lit, craignant d'être battu. Alors vous faisiez passer, parfois, parce que vous étiez des vilains, des magazines illicites entre les murs. Vous usiez d'intimidation en ce temps-là et de menace avec les autres, tout simplement pour être le premier en file à la cafétéria. Mais une fois libéré, eh bien vous n'agissez plus du tout ainsi. Oh non, vous êtes dans un monde totalement différent à présent. Donc, chers amis, l'union avec Jésus-Christ est comme un jeune de 10 ans qui refuse d'être traité de bébé par ses amis, car il sait qu'il n'est plus du tout un bébé, mais il est un garçon maintenant. Ainsi, il commence à agir comme un grand. Bien sûr, ces analogies ne sont pas parfaites. Elles ne prennent pas en compte la transformation que Jésus-Christ opère lui-même en nous, mais en tant qu'exemple imparfait, elles rejoignent le point de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 6. L'apôtre Paul ne se sert pas de son union avec Christ pour avoir une emprise sur l'Église de Rome. Ce ne sont pas les péchés que vous recherchez. Au contraire, il veut qu'ils sachent et qu'ils considèrent tout ce qui est vrai à leur sujet en Christ. Romains chapitre 6, versets 9 et 11. Leur identité, ainsi que la vôtre, a été totalement changée. Vous jouez maintenant pour une autre équipe. Vous n'avez plus le même âge, eh oui. Vous faites partie d'un autre royaume. Vous portez un nom nouveau. Ainsi donc, ne laissez pas le péché régner sur votre corps mortel. Verset 12. Ne présentez pas vos membres comme un instrument du mal pour le péché. verset 13, « Offrez-vous plutôt à Dieu comme esclave pour la justice qui mène, elle, à la sanctification. » Verset 19. La Sainte Bible est réaliste au sujet de la sainteté. Ne vous imaginez pas que ce discours glorieux sur la mort au péché et la vie avec Dieu signifie que nous n'éprouverons plus aucune difficulté ou que le péché n'apparaîtra plus du tout dans notre vie. La vie chrétienne nécessite que nous obéissions et l'implique un terrible combat. Et cela dit, c'est un combat que nous gagnerons avec le Seigneur. Alléluia. Vous n'êtes pas seul dans le ring, l'Esprit de Christ est de votre côté. Et il vous masse maintenant les épaules. Il tient le sceau. Il met ses bras autour de vous. Et il vous dit juste avant votre prochain round avec le péché, tu vas gagner. Car le péché, il peut cogner dur, d'accord. Il peut vous frapper en plein visage à plusieurs reprises. Il peut même vous faire tomber sur vos genoux, mais, si vous êtes en Jésus-Christ, il ne vous mettra jamais KO. Vous n'êtes tout simplement plus son esclave. Vous êtes maintenant libéré. Le péché ne domine plus sur vous. Et il ne le peut du reste pas. Et il ne le fera pas. Un nouveau roi, oh oui, le roi des rois, est assis sur le trône, le Messie. Vous servez donc un tout autre maître. Et vous, vous inclinez devant un autre Seigneur, devant Jésus-Christ. Alléluia. En effet, pour terminer, Dieu nous dit, parce que vous croyez en Jésus, je vous ai uni à lui par le Saint-Esprit. Lorsqu'il est mort, vous êtes mort. Lorsque Jésus est ressuscité, vous êtes ressuscité avec lui. Il a sa place au ciel. Donc, vous avez aussi une place au ciel. Il est saint, donc vous êtes saint. Vous êtes aujourd'hui en toute objectivité et en vérité, des enfants saints, bien-aimés de Dieu, morts au péché, vivant pour la justice et assis dans mon lieu céleste et saint. Maintenant, vivez donc selon ce que vous avez entendu. Voilà comment les indicatifs et les impératifs travaillent ensemble en union avec Jésus-Christ. C'est aussi une manière un peu plus longue de dire « Soyez vous-même, mais uniquement unis en Jésus-Christ. » Amen. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Prions. Seigneur, je ne désire en ce monde ni les triomphes de la vanité, ni l'éclat du luxe, ni le bruit de l'or, ni les regards de l'envie, ni les chuchotements des flatteurs, ni le tourbillon trouble des plaisirs. Seigneur, je ne te demande même pas la tranquillité constante de la vie, ni la sérénité sans nuages et un ciel heureux pour tous les jours. Je sens que nous sommes ici-bas dans le commencement, dans le portique, dans le prélude, et que le jour de l'éternité peut seul donner donner la pleine possession des infinis trésors que désire notre cœur. Je te demande, ô mon Dieu, de fortifier mon âme pour tes combats. Fais de moi une âme fidèle en ses dévouements, constante dans ses affections, tendre pour ceux que tu me donnes à aimer avec la grâce du détachement intérieur et la disposition de tout quitter sans murmurer sur un signe de ta main. Mais donne-moi la charité, la compassion ardente pour les misères des hommes, le don de souffrir avec ceux qui souffrent, et d'adoucir les larmes des malheureux en pleurant moi-même sur leur malheur. Donne-moi faim et soif de la justice, et dans la faiblesse même de mon âge et de ma condition, l'indomptable amour des causes justes et le courage de les défendre envers et contre tous. Après cela, ô Seigneur, dispose de ma vie que je te donne, dirige ma destinée au milieu des agitations redoutées des jours qui vont venir, et conserve-moi la paix du cœur et dans l'obscurité des heures douteuses. Donne-moi la sainte assurance que je suis en tes mains, ô mon Dieu, comme un enfant chéri, tranquille, pendant son sommeil, dans les bras de son papa bien-aimé. Amen et amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime, oh oui, et il est donc de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur. Et maintenant, sachez que je vous enlace maintenant tel que vous êtes où vous êtes, et je vous embrasse tous, et je vous dis oui, soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et maintenant j'aimerais vous mettre un ou deux chants d'un très lointain passé. C'était en 1954, quand j'avais enregistré cela avec le Revox et un Agra, c'était des appareils à bande. Et vous comprendrez que traduire, transférer cela sur des cassettes tout d'abord, et maintenant sur des CD, cela a perdu beaucoup de sa netteté, et parfois, il y a carrément des ratés. Et je m'en excuse d'avance, mais le Saint-Esprit se trouve dans ces chants. Que le Seigneur nous bénisse tous. À demain matin pour la suite de cette série.
Watson from Canada, Merva and Merla, who will sing to us. And their first number tonight is I Will Sing.
nor testify as to its being the happiest in their lives. Drunkards, Sabbath breakers, blasphemers and skittle players testified of a blessing the army had been to them. One said, I was a skittle player. They used to call me the heartbreaker. But now I want to be a heartbreaker for Jesus. May God hold her.
When I first went to the army, great salvation folks to see, I thought them quite degraded and not fit for such as me. I thought they were fanatics and not half things that it was true. And I was most disgusted.
Feel his hand.